femme. Si sont mobilisés, ils pourraient très bien vivre sans les bambins.
Je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrons. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Bonsoir, c'est Les Rigors. Chaque semaine, c'est Nicolas Garrigue Montpellier, Canal Sud à Toulouse, Radio Primitive sur Reims, et bien sûr, OC Libertaire, où vous pouvez à tout moment écouter cette émission.
Oui, alors, bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, une émission un peu particulière, puisqu'on est en contact, en lien direct avec la radio Sainte-Afrique, une radio militante associative qui existe depuis 30 ans, un peu comme exactement comme Radio Primitive. Donc bonjour tout le monde, là de votre côté il y a à la technique Z, et je crois dans le studio il y a Alain, Marie-Lou si je ne me trompe, et puis...
Sabine.
Bonjour.
Bonsoir tout le monde.
Salut.
Alors, ceci pour dire qu'on va ce soir parler de la lutte de bas élèves et de la lutte du comité national de résistance à bas élèves. Alors, je ne sais plus le sigle exactement comment
c'est
il s'appelle.
Collectif.
Voilà. Et donc, on va entrer tout de suite dans le concret, parce que je crois que, Denis, tu as une...
Bon, on a reçu une lettre aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des hasards assez incroyables. Ça se passe en Haute-Garonne. Il y a une enseignante qui était chargée de direction de classe unique depuis 8 ans, dans un petit bled à Iso de l'hôtel. J'ai dit un petit bled parce qu'il n'y avait qu'une seule classe, une classe unique. Et elle a été suspendue depuis le septembre. Pourquoi elle a été suspendue? Pour avoir refusé, bien sûr, bas élèves, et aussi pour avoir refusé de passer les évaluations nationales en CE1 et CM2. Et à cause de ça, eh bien, l'éducation nationale l'a sanctionnée. Pour l'instant, elle passe en conseil de discipline jeudi prochain, le jeudi 3 novembre à 9h à Toulouse. Il y a un comité de soutien. Je peux peut-être à la fin de l'émission donner un numéro de téléphone pour ce comité de soutien. Elle est soutenue par le syndicat Sud et par un certain nombre de personnalités, un écrivain, un cinéaste, etc. Voilà, alors comme quoi la répression est toujours là concernant cette lutte de bas élèves.
Alors... Donc, en fait, si on a décidé de faire cette émission, c'est parce qu'en fait, vous êtes chacun et chacune très impliqué dans le collectif départemental de l'Aveyron. Vous avez mené un certain nombre de batailles et ce n'est pas terminé. Est-ce que vous pouvez les uns les autres aborder, peut-être un peu historiquement, du moins ces dernières années, ce qui s'est passé et les évolutions, les avancées, où vous en êtes, quoi?
Bon, ben, je crois qu'il faut, pour les auditeurs, parce que on a eu l'occasion, c'est Alain là, hein,
oui.
On a eu l'occasion de se rendre compte que, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, nombre de gens, et en l'occurrence les parents d'élèves, ne sont pas au courant du tout de ce qui existe. Alors, je voudrais dire d'abord que, à mes yeux, bas élèves fichent et immatriculent illégalement tous les enfants. Alors, un tout petit rappel, donc, le traitement de données base élève et base nationale des identifiants élèves, donc BNIE, porte atteinte au principe de confidentialité, au droit à la vie privée et aussi au droit à l'éducation. Ils ont été épinglés par le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies en juin 2009. Alors ce dispositif, c'est dès la maternelle, l'immatriculation forcée de tous les enfants pour 35 ans. J'ai bien dit 35 ans, quel que soit leur type de scolarisation. Des renseignements personnels nominatifs qui sortent des écoles, de nombreuses interconnexions avec d'autres fichiers, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Quoique s'il faut parler de tous les fichiers, je pense qu'il nous faudra plus d'une émission. Puisque bon, tout ça, c'est la conséquence des régimes à idéologie close où le fichage, le contrôle et la vérification est considéré comme étant nécessaire, indispensable et tout à fait normal. Donc des renseignements personnels qui sortent des écoles, de nombreuses interconnexions, disais-je, avec d'autres fichiers, des utilisateurs multiples et pas toujours identifiables, une sécurisation impossible des données. Voilà, c'était simplement un tout petit préambule. On peut rediscuter après sur le fond. En ce qui nous concerne, effectivement, sur l'Aveyron, on a un collectif, bien sûr, qui a été particulièrement efficace, qui s'est dès le départ déployé dans le rejet de bas élèves, ce qui fait que on a enclenché en ce qui nous concerne, on a, j'allais dire, initié la plainte contre X, qui aujourd'hui représente quand même plus de 2000 plaintes, quoi. Et ça a été la première action, je veux dire, parce que on a considéré que la première des choses, c'était d'abord de tenter le légalisme. C'est pourquoi nous avons porté plainte contre X. Donc porter plainte contre X, il a d'abord fallu expliquer aux parents. En ce qui nous concerne sur le Saint-Africain, on a quand même presque battu des records, puisque la première plainte, c'était quand même 300 personnes. Alors je vous dis pas, quand on s'est pointé avec les 300 plaintes auprès du procureur de la République, c'est sûr que c'était bien la première fois de sa carrière qu'il voyait une telle articulation au niveau d'un combat dont il ignorait d'ailleurs le contenu, puisqu'il ne savait même pas que bas élèves, ça existait. Et puis, bien sûr, ça a continué par un certain nombre de manifestations. À chaque fois que nous le pouvons et à chaque fois que nous sommes renseignés, il y a toujours des délégations qui vont, j'allais dire, porter secours, autrement dit, appuyer les enseignants qui se trouvent en situation difficile par rapport à leur hiérarchie. Vous venez de citer un exemple. Apparemment, aucun de nous trois n'était au courant. Il est bien entendu qu'on souhaite avoir les informations. Toulouse, on connaît, puisqu'on a été porté, indépendamment de la plainte contre X, on a été porté une plainte au tribunal administratif à Toulouse. Alors, je précise que pendant tout ce temps-là, quand même, le Conseil d'État nous a donné en partie raison, l'ONU nous a donné en partie raison, qu'aujourd'hui, tout ce mécanisme, bien sûr, est appuyé par, d'une part, des conseillers au syndicat de la magistrature, et d'autre part, surtout, par un certain nombre d'avocats militants, que je me plais à ne pas oublier et à remercier par la même occasion. Voilà, en ce qui nous concerne, s'il y a d'autres précision que vous voulez savoir quant à notre démarche et à notre type de fonctionnement, indépendamment du fait que je précise aussi que notre collectif bénéficiant de l'antériorité, bien sûr, un de nos membres est au collectif national. Voilà.
D'accord. Je crois, j'ai entendu parler de vous en 2007, oui.
C'est exact.
Vous aviez déménagé des ordinateurs, est-ce vrai ?
Ah, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que nous, on a, disons que une certaine partie des parents d'élèves qui sont des adhérents, enfin des militants, même on pourra dire, j'aime pas trop le terme, mais enfin qui participent activement à la défense de leurs enfants, autrement dit, qui se sont opposés à bas élèves, appartiennent à une petite école d'où est parti en partie le mouvement, mais excusez-moi pour la répétition, parce qu'on a la chance d'avoir un directeur qui est complètement réfractaire. Et comme nous avons décidé d'un commun accord d'appuyer au moins en la circonstance les enseignants qui se trouvent en difficulté par rapport à leur hiérarchie, eh bien, à mon leurre, on a tout simplement confisqué les ordinateurs de l'école pour qu'ils ne soient... Ordinateurs qui, je vous signale, n'appartiennent pas à l'éducation nationale, comme dans n'importe quelle école. En l'occurrence, là, ça appartient à la mairie. Autrement dit, ça appartient à la collectivité. Et comme jusqu'à là, on ne nous a pas fait la démonstration que nous n'étions pas de la collectivité en question, eh ben, on s'est autorisé à récupérer notre bien, celui que nous avions financé par l'intermédiaire de la municipalité, et qu'on a pris les ordinateurs. Et bien sûr, on les a confisqués, mais grand seigneur, puisqu'on ne les a pas jetés à la poubelle. On les a simplement réintégrés à l'endroit qu'ils n'auraient jamais dû quitter, c'est-à-dire la mairie de ce petit village. Voilà.
Je
crois qu'aussi, si mes souvenirs sont exacts, tu vas me le dire, vous aviez aussi fait des actions pour empêcher la formation des directeurs d'école, parce qu'il y avait des gens qui circulaient à un moment donné, dans les années 2007-2006, pour former justement les directeurs pour qu'ils puissent après avoir tous les éléments pour entrer justement dans Bas Élèves.
Eh ben, je vois que vous êtes loin, puisque d'après ce que j'ai compris, vous étiez à Amiens, c'est ça ?
À Reims, plutôt.
Ben, vous êtes loin, mais vous êtes particulièrement informé de ce qui se passe chez les demeurés de l'Aveyron, puisqu'effectivement, ça fait partie de nos actions. On en aurait peut-être parlé, mais tu fais bien de le rappeler immédiatement, puisque ça a aussi de l'importance. Ça fait partie de nos actions, effectivement. C'est à partir du moment où les enseignants nous ont prévenus qu'ils allaient être visités par l'informaticien qui était censé non seulement leur apprendre à rentrer les élèves dans la base élève, mais qui, en plus, substituant au rôle du directeur qui n'était pas spécialement sur la même longueur d'onde, cet informaticien profitait bien sûr de cette séance d'initiation pour rentrer dans base élève et commencer à rentrer les élèves. Donc à chaque fois que ça a été possible, quand on a été prévenu par les enseignants, eh ben on était relativement nombreux et on a fait systématiquement une obstruction qui fait que l'informaticien en question n'a pas pu remplir son œuvre dévastatrice. Ouais, c'est exact.
Alors, oui. Alain,
moi, je voulais rajouter, excuse-moi, c'est Marie-Lou. Je voulais rajouter qu'on a fait aussi d'autres types d'actions plus locales, puisqu'on parle de l'école communale, hein, donc du village. On a aussi beaucoup dirigé nos informations vis-à-vis d'abord donc, de l'ensemble des parents, mais aussi de l'ensemble des citoyens de la commune. Et effectivement, ça a permis, par exemple, le jour où donc, le directeur a été menacé, bien sûr, il n'a pas échappé non plus à la menace, mais effectivement, il a échappé à la sanction. Ça a permis quand même, effectivement, de mobiliser la totalité des citoyens, c'est-à-dire aussi bien des élus et que des citoyens qui n'étaient pas parents d'élèves dans la commune, pour aller, effectivement, ensemble, en bus, symboliquement à Rodez, devant l'inspection académique, pour, effectivement, soutenir notre directeur. C'est vrai que ça a aussi permis de ralentir, je pense, très fortement la pression qui pouvait être mise sur, effectivement, l'enseignant concerné.
Oui. Il faut dire dit Marie-Lou, oui, à propos des sanctions, malgré tout, ça n'a pas été plus loin, mais ce directeur d'école a quand même un prélèvement sur salaire depuis des mois et des mois et des mois.
Tout à fait.
C'est-à-dire, précisément ?
Eh bien, il y a une retenue sur salaire.
Et c'est une retenue importante ?
C'est de l'ordre du 30e.
D'accord. Et je crois que au niveau du collectif national du CNRBE, de résistance à bas élèves, il y a un soutien très concret par rapport aux enseignants qui subissent ces prélèvements sur salaire.
Ben là, je vais laisser la parole à Sabine, qui, elle, est une représentante nationale. Tu sais que là, on est tout petit auprès de ça.
Oui, donc voilà, je vais faire un peu, je sers un peu de relais. C'est Sabine. Alors, effectivement, en ce qui concerne le soutien par rapport aux sanctions sur les salaires, il y a une caisse de solidarité qui est tenue par le mouvement Résistance Pédagogique. Et en fait, donc, tous les directeurs qui sont sanctionnés sur leur salaire peuvent s'adresser à eux et donc ils reçoivent, c'est vrai qu'ils ont c'est une caisse qui est régulièrement alimentée et donc il y a de quoi effectivement verser, je dirais, le manque de salaire que les directeurs n'ont pas eu.
Voilà. Et ça, c'est pour les directeurs qui le demandent, hein, c'est ça ?
Oui, 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 tout D'accord. à fait.
Donc, alors moi, je voulais revenir à une question dans l'évolution de la situation de cette lutte bas élèves. En 2008, puisque Denis parlait de 2007, des actions que vous aviez menées, quelques-unes, en 2008, il semble les syndicats et les fédérations de parents d'élèves ont, semble-t-il, crié victoire suite aux déclarations de Darcos qui lui annonçait que le fichier bas élèves serait purgé.
Ouais.
Hein, du moins son contenu liberticide. Ouh. Et apparemment, ça a été une parodie, quoi. Ça a été un effet d'annonce. Et je crois que c'est à la suite de ça que le collectif s'est créé. Comment vous avez réagi à ça, cette phase-là ?
Oh ben ça, c'est de la poudre aux yeux, hein, je veux dire, c'était un grand truc de com. Bon, néanmoins, ils ont quand même été, puisqu'ils s'étaient prononcés sur le caractère liberticide, ils ont été quand même dans l'obligation de revoir la copie, c'est-à-dire la copie, j'entends par copie, le décret pas le décret, faut pas confondre, c'est un arrêté du 20 octobre 2008 qui portait création du traitement automatisé qui, effectivement, dans sa première mouture, obligé à donner des indications sur les origines raciales des élèves. Donc, ils ont aménagé les articles 3, 4 et 5. Ils ont été obligés aussi, suite à différentes démarches et à la position de l'ONU, ils ont été obligés de nous réintégrer intégrer les parents dans un droit dont ils nous avaient spolié, j'entends, parce que c'était carrément une spoliation. Je veux dire, il est toujours facile de demander aux parents d'assumer la totalité de leurs responsabilités en tant qu'adultes par rapport à leur progéniture, mais il se faisait que dans l'article 9 de ce fameux arrêté, eh bien, l'article 38 de la loi informatique et liberté, nous en étions dispensés. Ça veut dire que on se trouvait dans une configuration où un arrêté faisait fi d'une loi. Je veux dire, c'était sans précédent. Donc, ils ont été obligés d'aménager cet article qui n'est rien d'autre que le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 78, bien sûr, et qui est la loi sur l'informatique et liberté. Et on est à nouveau en possibilité de nous exprimer sur le droit d'opposition, mais avec une petite nuance, c'est-à-dire que ce droit d'opposition dans l'article 38 est ficelé de telle façon que on ne peut se prévaloir de lui qu'à partir du moment où nous énonçons un motif légitime. Or, le problème que nous avons maintenant, c'est que le motif légitime n'a jamais fait l'objet d'une mise en œuvre d'une part et d'autre part d'un jugement. Ça veut dire que nous ne connaissons pas le contenu légal de ce qui pourrait être invoqué comme étant un motif légitime. J'ai répondu à ta question ?
Oui, oui, tout à fait, oui.
Oui, donc en fait, je vais juste apporter une petite précision par rapport à ce que vient de dire Alain. C'est que ce droit donc, qui nous avait été supprimé dans l'arrêté, on l'a retrouvé suite à un recours en Conseil d'État qui a été donc déposé par un parent d'élève et une directrice d'école de l'Isère. Et donc voilà, c'est suite à ce recours en Conseil d'État qu'on a retrouvé ce droit. Voilà, donc c'est vrai que je voulais apporter quelques nuances par rapport à ce que disait Alain, parce que c'est vrai que dans le jugement qui a été rendu par le Conseil d'État, je dirais que la mise en œuvre de base élève est légitimée. Hein, le Conseil d'État autorise en fait à poursuivre la mise en place en disant que ça va servir au bon fonctionnement du service d'éducation nationale. Voilà, alors c'est vrai que là on a eu une petite porte qui s'est ouverte, donc c'est vrai qu'on s'est dit qu'il faut profiter, je dirais, de cette petite brèche qui s'ouvre. Voilà, pour saisir les tribunaux, faire valoir notre droit d'opposition et essayer que des motifs légitimes soient reconnus, quoi. Voilà, c'est un peu le sablier qui s'ouvre, voilà, un petit grain de sable qui passe, un deuxième, un troisième, et puis au final, le sablier, il est vide, quoi. Hein. C'est un peu l'idée qui est un peu derrière cette action. Voilà, je voulais juste parce que il faut savoir que dans les courriers, voilà, que les parents adressent aux inspections académiques, systématiquement, il leur est répondu que le Conseil d'État a légitimé cette mise en œuvre, quoi. Donc, c'est vrai que c'est assez juridique, des fois c'est un peu compliqué, mais c'est quand même vachement important parce qu'on s'y perd et on a en face de nous quand même un mur en béton, quoi, qu'il va falloir casser.
C'est
difficile.
Je pense quand on regarde un peu l'histoire de ce fameux base élève, ça part quand même en 2004. C'est au départ expérimental, c'est dans 20 départements, ça ne concerne pas toutes les classes. 2005 aussi, mais ça marche très mal, puisque à cela s'ajoute le fait qu'il y a des grèves administratives de la part des directeurs et des directrices d'école qui font que ce bas élève a bien du mal à s'y mettre. Et je crois qu'il y a un truc qu'il faut rappeler, qui a quand même été la première reculade du ministère de l'Éducation nationale, c'était par rapport à l'item qui concernait la nationalité. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le réseau RESF en particulier a foutu le bazar là-dessus en disant ben, grâce à bas élèves, on pourra sans problème voir un petit peu dans quelle école est tel ou tel élève et si ses parents ont des papiers, il suffira de se brancher sur bas élèves. Et là, je crois que ça a été en octobre 2007 où le ministre de l'Éducation nationale a pour la première fois reculé. Par rapport, alors on parlait tout à l'heure du Conseil d'État, c'est la dernière reculade dont tu parlais tout à l'heure, elle date, cette reculade, bon, du 19 juillet 2010, c'est donc 2010, donc c'est récent, c'est il y a un an.
Oui. L'ONU alors, c'était avant. Hein.
L'ONU c'était avant, c'était en juin 2009. Donc alors, on s'aperçoit que, bon, effectivement, il y a eu un rapport de force sur le terrain, il y a eu effectivement des tas de choses qui ont été faites au niveau juridique. Il y a eu ces 2000 parents, il y a ces 200 directeurs et directrices au moins qui refusent. N'empêche que bas élèves tient toujours, quoi. Et qu'en fait, on s'aperçoit, et je crois que le CNRB en avait parlé, que de toute façon, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est bien dans l'identification élève, dans le numéro d'identification élève qui devrait suivre les mômes adultes, etc., jusqu'à 35 ans.
Oui, ouais, alors je voulais quand même rajouter
ce qu'il faut rappeler, voilà, c'est que dans la première mouture, les données qui ont été retirées, c'est effectivement la nationalité, mais il y a la catégorie socioprofessionnelle des parents, il y a les difficultés scolaires, le parcours scolaire. Les personnes qui viennent chercher les enfants à la sortie de l'école, avec les adresses, les numéros de téléphone, il y avait vraiment plein de choses. Donc c'est vrai que tout ça a été supprimé. Après, sur un plan juridique, en fait, il n'y a que la nationalité qui a été retirée. C'est-à-dire qu'à tout moment, tout le reste peut réapparaître. Hein, ouais. Et d'ailleurs, on le voit réapparaître actuellement à travers le livret personnel de compétences, justement sur par rapport aux compétences, par rapport aux difficultés scolaires. Il y a également en ce moment les évaluations nationales. Donc c'est vrai que on a beaucoup débattu là-dessus parce qu'on savait pas si elles étaient nominatives, si elles étaient remontées, si elles étaient centralisées, etc. Parce que dans les textes, il est prévu que ces données, au départ, elles étaient dans bas élèves, hein, mais bon, elles ont été retirés, mais bon, on voit qu'ils essayent de contourner le dispositif, et grâce à l'INE, après, bon, il n'y a aucune difficulté pour faire des regroupements de fichiers. Hein, c'est vrai que je dirais l'ossature de dispositif, c'est bien l'immatriculation des enfants. Hein, voilà, il y a actuellement un projet, c'est de mettre en place le répertoire national des identifiants élèves. C'est-à-dire, ça ressemblera comme au répertoire du numéro de sécurité sociale, le NIR, avec l'INSEE, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des bases de données qui sont énormes et avec des renseignements et qui sont personnels, confidentiels. Et grâce à ce numéro, voilà, c'est ça qui va permettre de croiser les renseignements et les fichiers.
Camille, tu voulais faire une remarque ?
Oui, alors je voulais faire une remarque sur par rapport, on parlait de la grève administrative des directeurs d'école qui a duré presque une dizaine d'années, donc qui était un frein à la mise en place de bas élèves. Et comment le ministère en est sorti, il a proposé, pour que la grève se termine des directeurs d'école, de mettre en place des personnels sous contrat précaire, sous contrat aidé, qui allait faire du secrétariat dans les écoles, puisque jusqu'ici, il n'y avait pas de secrétariat dans les écoles. C'était les directeurs ou les instituts qui le faisaient. Et donc, ça a été une façon de pouvoir mettre un peu à bas. Alors, donc, il n'y en a pas dans toutes les écoles, hein, mais il y avait un certain nombre de postes qui ont été créés, quand même assez importants, surtout en ville ou là où il y a des grosses écoles. Et donc, ça a permis que la résistance, là où pouvait y avoir de la résistance, puisqu'il y avait du personnel qui était là pour le faire, les secrétaires, c'est les secrétaires qui l'ont fait. Et bon, apparemment, il y a à nouveau une grève administrative lancée par les syndicats depuis la rentrée. Je ne sais pas comment elle s'applique dans les écoles. Et puis il y avait une deuxième remarque que je voulais faire aussi, c'est que si le principal objectif effectivement de base élève, c'est d'identifier, d'avoir un fichier identifiant, il y a un deuxième aspect qui est très important pour l'éducation nationale, c'est ce qu'on appelle la gestion des stocks. Savoir combien il va y avoir d'élèves à la rentrée prochaine et de programmer les fermetures de classe.
Tout à fait.
Moi, je voulais rajouter par rapport effectivement à l'utilisation de personnel administratif hein, pour faire effectivement la saisie des données, donc par ces fameux employés de vie scolaire qui sont d'ailleurs des contrats jetables, hein, puisque ce sont des CAE, des contrats d'accompagnement à l'emploi qui durent 6 mois, 1 an grand maximum, enfin c'est même plus le cas. Et il est bien évident qu'effectivement là, il y a une entorse enfin sur laquelle on ne s'est jamais vraiment totalement penché. Une entorse terrible aussi à la loi informatique et liberté, puisque qu'effectivement dans le tout fichage, tout enregistrement de données à caractère personnel concernant les enfants, il y a, comme pour les autres d'ailleurs, les responsables doivent, les personnes qui exercent en fait la responsabilité légale doivent être au courant de la totalité des noms des personnes qui vont utiliser et avoir accès à ces données. Alors qu'effectivement, ça fait partie des gros manquements de la mise en place hein, de base élève, c'est que en fait, aucun parent n'a jamais été averti que en fait, les données qui étaient enregistrées sur ses enfants étaient saisies par du personnel dont il n'avait même pas connaissance. En fait. Mais c'est bien marqué dans les contrats, je l'ai vérifié, il y a bien indication dans les contrats de ces personnes la saisie informatique de données.
Ouais. Moi, j'ajouterais parce que, si tu veux, je suis assez sensible à ça. Quand je regarde les mécanismes, je me dis que pour des raisons sur lesquelles je ne suis pas disposé à disserter immédiatement, il est très très difficile de mobiliser le monde de l'éducation nationale et particulièrement les enseignants. C'est la raison pour laquelle, en ce qui nous concerne, si tu veux, on s'est articulé sur un mouvement de parents en assurant notre solidarité à destination des enseignants réfractaires. Ceci étant dit, il faut être tout à fait clair, il y a plus de 80% des enseignants, et je suis gentil en disant ça, qui ne résistent pas et qui se retranchent ou derrière des directives syndicales. Là non plus, je ne pense pas que notre soirée soit faite pour en discuter. C'est dommage, parce que j'aurais beaucoup de choses à en dire. Mais en ce qui nous concerne, notre but, c'est la solidarité avec les enseignants qui eux n'ont pas été tellement surpris de voir une exceptionnelle mobilisation des parents d'élèves, parce que quand même ça fait beaucoup de parents d'élèves qui se sont rejoints sur des espaces où il était inhabituel de les trouver. Voilà.
Pause musicale, hein, et puis on va revenir après parce qu'on a besoin d'une pause musicale malheureusement. Donc on va faire une pause musicale et puis ne quittez surtout pas hein, l'antenne. On se retrouve dans 2-3 minutes. On peut même peut-être, l'un d'entre nous peut peut-être même discuter avec vous en dehors de l'antenne. Est-il en panne ou dans l'impasse? Oh, mon sapiens, prends-tu seulement conscience que tu perds tes enfants? Oh, lave jusqu'à l'âme de tout le terrien. Dis-toi bien la moelle, j'aurai mal. Lave jusqu'à l'âme de tout le terrien. Dis-toi bien la moelle. Époque et colère d'âme, et ratatam, et vague à l'âme.
Casareccio et son album Époque épique. C'est un groupe de Champagne. Alain,
donc on reprend.
Une question
ouais.
à te poser par rapport au,
attends,
au
pas...
syndicat justement.
Oui, bah justement, on allait y venir. Je répondrai à ta question après. Sabine voulait te donner une précision.
Oui, c'était par rapport à une de tes questions, par rapport à la grève administrative. Donc c'est vrai qu'au début de la rentrée, là en fait, c'est le SEUNSA. Qui a lancé un appel donc auprès des directeurs de ne pas remplir base élève, mais pas pour des raisons de fichage, mais pour parce que les directeurs sont surchargés de travail administratif. Et donc voilà, c'est pour dire stop, on a trop de travail, soit vous nous remettez du personnel pour nous aider, voilà, mais on peut plus travailler dans ces conditions. Voilà, mais ça a aucun rapport avec le fichage. Hein. Voilà.
D'accord. Je voudrais aussi dire qu'au niveau de la cartographie de la résistance à base élève, elle est quand même particulière. Il n'y a quasiment rien dans le nord de la France, il n'y a quasiment rien dans notre région, dans le nord-est et dans l'est. Tout se passe souvent Grenoble, Rennes, l'ouest donc, il y a eu votre le sud, et surtout à part des grosses villes comme Grenoble, Rennes et puis Toulouse, qui ont été touchées par la résistance, il y a surtout la zone, les zones rurales. Hein, je crois que voilà, alors ça explique que ça n'a pas pu. Nous, par exemple, on a tout fait sur Reims pour que ça prenne. Malheureusement, on a été trahi, bon, enfin, sans s'en douter un peu, par le syndicat majoritaire,
ouais.
le SMIPP, qui, de toute façon, a bien dit que ça ne posait aucun problème, ce fichier ne posait absolument aucun problème pour eux.
Ouais. Oui, mais ça, là, je ne suis pas du tout surpris. Ceci étant dit, je crois quand même me souvenir, bon, on a collecté tellement d'informations qu'il est possible que ma mémoire me fasse défaut, mais je crois que la ville de Paris s'était prononcée. J'ajoute, à toutes fins utiles, que je ne suis pas du tout surpris de ce que tu me dis, puisque même dans le Sud, qui est traditionnellement quand même des gens qui ont la révolte assez facile, c'est normal, hein, c'est républicain, c'est l'article 35 de la déclaration de 1793. Et ben même dans le Sud, il y a encore des endroits où, quand on va pour s'expliquer, bas élèves, les gens ne connaissent pas. Donc, si tu veux, il faut bien comprendre aussi que l'éducation nationale, dans son arrêté, a tout fait pour que ça se fasse d'une façon très, très discrète, indépendamment du fait que, quand ils se sont rendus compte que quelques-uns étaient au courant, ils se sont organisés pour mentir à travers des textes interprétés et c'est simplement des mensonges, c'est-à-dire des non-informations. J'ajoute quand même que un certain nombre de directeurs d'école, comme un certain nombre de fonctionnaires en général, se trouvent confrontés de par leur hiérarchie à une répétition habituelle qui consiste à leur faire mettre l'accent sur le devoir de réserve. Alors, je voudrais dire que c'est quelque chose qu'on a eu l'occasion d'étudier avec des juristes, et je te livre les réponses qui m'ont été faites, parce que je pense que c'est très intéressant, surtout pour les fonctionnaires qui risquent, dans le cadre de leurs activités, d'être ennuyés par leur hiérarchie par rapport à leur position. Les droits et obligations des fonctionnaires d'État sont gérés par la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, dans laquelle la notion de devoir de réserve n'existe pas. Le titre 2 du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales, loi 84-16 du 11 janvier 84, qui porte sur les dispositions statutaires des fonctionnaires, ne fait nulle part mention d'un quelconque devoir des réserves. Rien ne restreint pour les enseignants ni pour les fonctionnaires la liberté de tout citoyen d'exprimer son opinion, de participer à une manifestation publique, de signer une pétition. Cependant, il est interdit, et ça, je le comprends très bien, il est interdit aux enseignants et aux fonctionnaires d'engager, en ce qui concerne les enseignants, l'éducation nationale ou leur ministère de tutelle pour leur prise de position en la liant à leur fonction. Voilà ce que dit la loi.
Okay. Je crois que vous êtes parents d'élèves, et ça serait peut-être intéressant que vous parliez de la SCPE, justement, parce que, bon, au niveau des enseignants, bon, on sait que les syndicats nationaux, à part Sud Éducation, n'ont pas du tout relayé cette lutte, et ont tout fait pour la saboter, on peut le dire. Par contre, au niveau de la SCPE, comment ça s'est passé?
Attends, bouge pas, avant que Sabine te réponde, puisque, en plus, elle est déléguée FCPE, je te signale à toutes fins utiles que si vous aviez quelques difficultés d'information et que les syndicats dits majoritaires, autrement dit représentatifs, n'ont pas été d'un secours exceptionnel, sache que, en ce qui nous concerne pour le Sud, il y avait effectivement Sud et il y avait aussi la CNT.
Oui, bien sûr. Oui. Chez nous, ça n'existe pas, donc bon. Alors,
avec la FCPE, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont mobilisés quand, au moment, donc avant 2007, quand il y a eu toutes les organisations syndicales aussi qui s'étaient mobilisées avec la Ligue des droits de l'homme. Donc voilà, c'était bien mobilisé à ce moment-là. Donc ce qu'ils demandaient essentiellement, c'était effectivement le retrait des données liberticides. Donc suite à l'arrêté, enfin c'était juste avant en fait, suite à la déclaration du ministre, ils ont tous crié victoire. Et donc voilà, nous, les bras nous en sont tombés et nous avons continué. Il a été difficile après effectivement de remobiliser, je dirais, les syndicats et la FCPE. Ils ont les deux pieds dans le même sabot, hein, faut dire ce qui est. C'est difficile d'être pour des parcours individualisés, d'être pour la personnalisation au maximum, etc. De mettre en place un fichier de gestion, un pilotage éducatif et être contre base élève. Il y a quelque chose, c'est vrai, qui va très bien ensemble. Et bon, par contre, il faut, voilà, la FCPE a voté une motion, elle s'est quand même prononcée à deux reprises contre le fichage des élèves et des familles. On est en 2011, donc ça devait être en 2009 et 2010. Voilà, ils ont quand même voté une motion au Congrès national contre le fichage des élèves. Mais c'est vrai qu'après, sur le terrain, ce sont plutôt des associations locales, FCPE, qui se mobilisent. Et c'est vrai qu'il y en a qui se mobilisent très fortement. Par exemple, c'est vrai qu'en Isère, elle s'était très fortement mobilisée. Il y a d'autres, en Haute-Garonne, elle est très fortement mobilisée. Dans l'Aveyron, nous l'avons été au début. Maintenant, nous le sommes beaucoup moins. C'est vrai que quand même ça traîne. Moi, c'est vrai que j'en étais à me demander s'ils étaient capables d'aller plus loin que des prises de position, je dirais, de principe. Ils en sont capables, hein, puisque effectivement ils mènent des actions en justice pour d'autres problématiques. Je crois qu'il y a quand même une volonté, je sais pas, moi j'essaye de comprendre des fois cette position de dire on est contre mais on ne fait rien, quoi. Hein,
Que c'est une caractéristique de toutes ces organisations dites majoritaires et représentatives. On sait ce que signifie majoritaire et représentatif. C'est-à-dire l'essentiel des syndicats, comme les partis politiques, touchent des subsides de l'État. Je pense que le gros problème là-dedans, c'est que ces gens qui sont majoritaires et qui d'ailleurs, au début, dans certaines de nos réunions, nous ont posé des problèmes. Souvenons-nous des tiraillements qu'on avait eus avec les gens de la FSU, parce que c'est vrai que cette façon de fonctionner, qui au demeurant, je le dis comme ça parce que ça m'appartient, ne me convient pas du tout, dans le sens où c'est du domaine de la verticalité, où la base est invariablement négligée et que on se rend compte de son existence qu'à partir du moment où on a besoin de faire du chiffre, autrement dit on a besoin de mobiliser du nombre. Moi, je suis pour le respect des autres et de soi-même, la liberté absolue de conscience. Hein, je veux dire, je n'ai pas besoin d'être piloté extérieurement pour choisir mon attitude. Parce que ce que je déplore là-dedans, c'est que la reconnaissance est de plus en plus liée à l'appartenance. Et si pour une raison ou pour une autre, tu as le malheur de dire que tu n'appartiens pas, tu deviens invariablement suspect.
Mais c'est l'intérêt du collectif.
Mais c'est l'intérêt du collectif.
Voilà, c'est vrai qu'il faut quand même rappeler qu'à l'intérieur du collectif, donc c'est vrai qu'il y a des citoyens, des personnes qui n'appartiennent à aucune organisation, mais il y a principalement beaucoup de personnes qui appartiennent, que ça soit au SNUPP, à SUD, à la CNT, à la FCPE, voilà, ce sont quand même des gens qui sont engagés, par ailleurs, dans ces organisations. Bon, c'est pour ça que le collectif s'est créé, c'est parce qu'on ne trouvait pas, si tu veux, de retour de leur part.
Hein. L'avantage du collectif, mais, si tu veux, voilà, c'était un milieu dans lequel il était possible d'échanger sans que pour autant quelqu'un qui aurait pu avoir l'intention de prendre le pouvoir y parvienne.
Mais tout à fait, et d'ailleurs c'est la force du collectif. Hein, ça marche bien parce que ça fait quand même à peu près 4 ans que le collectif national marche, quoi. Hein. Tous les ans on fait des réunions nationales, on travaille pas... On essaye d'en organiser une là, peut-être pour le début de l'année par rapport aux élections présidentielles. Enfin, on aimerait quand même essayer de se rendre visible à ce moment-là. Il y a un gros travail quand même qui est fait, en sachant quand même qu'on est peu nombreux. Hein, que ça, c'est quand même des gros dossiers, il faut se pencher dessus, etc. On essaye d'avancer sur le plan juridique et on essaye aussi de mobiliser, donc c'est pas évident. L'intérêt du collectif, c'est qu'on a aussi des idées divergentes pour combattre, je dirais, un même problème, quoi. Mais c'est une force, et c'est vrai qu'il n'y a pas de chef, et c'est vrai qu'on avance.
Ce qui est intéressant, c'est aussi que justement le collectif se renouvelle en permanence, finalement. justement, puisque à partir du moment où de nouveaux parents deviennent parents et donc deviennent parents d'élèves, on peut avoir effectivement des personnes qui n'étaient évidemment pas au courant de ce qui se passait dans l'école publique et privée d'ailleurs aujourd'hui, et qui se trouvent confrontées à cette réalité-là de manière très violente en fait, hein, et qui donc vont venir rejoindre les collectifs, qu'ils soient départementaux ou régionaux ou nationaux, parce qu'effectivement ils sont très très en demande d'information, puisque c'est vraiment le seul lieu où on peut avoir l'information. Enfin, on vous donnera si vous voulez les sites d'ailleurs sur lesquels il y a beaucoup de choses. Parce qu'effectivement, on croit que le problème est réglé. Enfin, l'État aimerait faire comme si le problème était réglé, à savoir qu'il n'y a plus de résistance qui se développerait aujourd'hui, mais tout est à nouveau possible.
Oui, oui.
Tous les ans, de nouveaux parents rentrent.
C'est vrai qu'il y a eu des anciens
parents qui maintenant ont leurs enfants en collège.
C'est ça.
Justement, ça sera intéressant de ce que vous nous parliez un petit peu.
On est en plein dedans.
Alors, on attaque une seconde partie et on quitte délibérément bas élèves. Il y avait encore quelques trucs à préciser.
Non, mais peut-être.
Le problème, c'est qu'il nous reste,
ça se suit.
Il nous reste 10 minutes.
Ouais.
Donc, on reviendra.
On reviendra.
Non, c'est vrai qu'on a, effectivement là des choses qui se précisent et sur effectivement ce qu'on est.
Avant de parler de ce qu'on est, il faut quand même redire qu'il y a quand même l'Assemblée territoriale Corse qui s'est prononcée et qu'ils ont voté une motion à l'unanimité contre bas élèves. Alors là, on ne va pas lire la motion, mais bon, elle est parfaite. Elle est parfaite. Hein. Il y a également la région PACA qui a fait la même chose. Il y a le Conseil de Paris, donc effectivement, dont parlait Alain tout à l'heure, qui ont exprimé un vœu. Enfin voilà, il y a quand même les parlementaires qui commencent à bouger. Et donc voilà, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on avance lentement, mais on avance.
Oui, mais il faut dire que là, on avance. Les réponses des parlementaires, à mon avis, c'est plus la conséquence d'une période dont nous connaissons tous l'échéance, qu'une prise de position réelle. Parce que bien souvent, je veux dire, ils nous ont répondu à côté. Je veux dire, hormis ces grands exercices rhétoriques, on n'a jamais eu de réponse très, très, très précise sur leur position.
Justement, parce que quand on dit la région PACA prend une position, qu'est-ce que concrètement ça implique sur l'éducation nationale? Quelles sont les interactions possibles d'un conseil régional sur l'éducation nationale? À mon avis, c'est assez mince.
Moi, je ne suis pas complètement d'accord. Je veux dire, c'est quand même, tous ces gens-là sont des élus. Et que je sache, c'est vrai que j'ai de plus en plus de doutes. Et on pourrait trouver une multitude d'exemples. Mais que je sache, nous sommes encore en République. Ça signifie que nous avons un certain nombre de possibilités qui nous sont données par la Constitution, même si elles nous sont quelque peu supprimées, même si elles nous sont spoliées par un pouvoir totalitaire. Hein. Mais bon, il nous reste quand même des possibilités républicaines, citoyennes, on dira. J'en prends pour exemple que la première plainte a été traitée par le procureur général de la République qui procède du parquet, autrement dit des gens qui sont nommés par l'État, et que nous en sommes maintenant dans notre démarche à l'interpellation d'un juge d'instruction. Profitons-en, je dis au passage, profitons-en, parce que sans être un inconditionnel de la justice, pas plus que des flics, je trouve qu'il reste encore des juges d'instruction. C'est pas systématiquement néfaste avant qu'on nous les supprime.
Justement, Nathalie voulait poser une question parce qu'elle n'est pas intervenue.
Non, j'ai pas de question. Je voulais juste, c'est une question. Je voulais vous demander un petit peu qu'est-ce que vous envisagez là pour la suite concernant le collectif.
De toute façon, on envisage surtout de continuer à exister. Et ça, c'est quand même prépondérant avec un certain nombre d'éléments nouveaux. Je veux dire que chaque jour nous apporte les preuves que nous, contrairement à ce qu'on voudrait essayer de nous faire croire, nous ne sommes pas dans un combat d'arriérés et de demeurés, quoi. Je pense que sur un mode tout à fait particulier, celui du collectif, d'ailleurs les collectifs en général, et pas seulement celui pour bas élèves, ennuient considérablement le pouvoir. Hein. Parce que, dans un collectif, il y a des zones d'échange qui sont très, très libres, j'allais presque dire libertaires, et qui ne mettent personne à l'abri d'innovation et d'étonnement.
Moi, ce que j'aurais aimé rajouter par rapport effectivement aux possibilités d'action du collectif, c'est que ça fait suite à ce que vient de dire Alain, c'est-à-dire que les possibilités d'action, elles sont d'abord individuelles. On ne donne pas de mot d'ordre, enfin le collectif n'a jamais eu, encore une fois, le fonctionnement ni d'un syndicat ni d'une organisation particulière qui donnerait des mots d'ordre. Mais c'est vrai que toutes les initiatives sont les bienvenues et on est effectivement sur des comportements individuels qui peuvent être effectivement le fait de peut-être d'arrêter de remplir au niveau des enseignants en tout cas le fichier, de l'alimenter. Il s'arrêtera par lui-même, il suffit d'arrêter de l'alimenter en fait. Il peut très très vite effectivement ne plus avoir la possibilité de fonctionner en tout cas tel qu'il est souhaité aujourd'hui. Mais ça peut être aussi de la part des parents de s'approprier ce droit d'opposition que effectivement très peu de gens connaissent encore et effectivement continuer à informer.
Absolument.
Ça, c'est la première chose à tout niveau, tout citoyen. Et j'allais dire qu'on a peut-être quelque chose qui nous rend aussi assez optimistes quelque part, c'est que je pense que les personnes qui s'intéressent un minimum au fichage, et je pense qu'elles sont de plus en plus nombreuses du fait, tout simplement de la diversité de ce qui se passe actuellement au niveau psychiatrique, au niveau des écoles maternelles. Là, on a bien vu ce que le tollé que ça a provoqué, les déclarations de déclarer les enfants à risque dès la maternelle. Enfin,
médicalisation des enfants.
Ouais. C'est le rapport ministique qui revient là.
Avec
la
violation
plan,
du secret médical.
Entre autres. Je pense que les parents sont de plus en plus conscients de ce que ça va représenter. C'est-à-dire qu'avant, c'était peut-être une base élève était quelque chose de très virtuel, comme ça, évidemment. Mais je pense que maintenant, les parents commencent à comprendre aussi ce à quoi ça peut servir et des implications directes. Et la multiplicité des fichages qui se mettent en place aujourd'hui font effectivement aussi, je pense, réfléchir d'une manière un peu plus globale les personnes, non pas seulement sur base élève, mais sur la totalité des lieux de fichage qui se développent encore.
Et moi, je pense que parmi nos actions, toutes celles qui ont consisté à faire des soirées, j'allais dire, à but culturel et pédagogique, avec des gars comme Bernard de France et tout, je veux dire, ont porté principalement à destination de la prise de conscience de l'individu quant au danger, si tu veux, de ce fichage généralisé. Donc ça aussi, ça fait partie des actions que nous allons continuer à initier.
Justement, parce que au début de l'émission, je vous ai parlé d'un cas dont on a eu connaissance aujourd'hui. Mmh. Hein, on va y revenir. Il s'agit de Karine, avec un K et un Y, Girardot. Elle était donc directrice de l'école d'ISO de l'hôtel. C'est dans le 31, donc dans votre région. En fait, elle passe au conseil de discipline jeudi à 9h du matin, à la cité administrative de Toulouse, pour avoir refusé bas élèves et pour aussi avoir refusé les évaluations nationales en CE1 et CM2. Malheureusement pour elle, elle n'a pas eu l'unanimité contre bas élèves, elle n'a pas eu l'unanimité des parents d'élèves avec elle, puisque le maire a réussi à avoir avec lui 5 parents d'élèves qui contestait justement le fait que cet enseignant ne faisait pas, entre guillemets, son travail.
Ouais.
Donc voilà, dans certains cas, il est difficile. On avait fait une émission d'ailleurs avec un copain qui refusait un certain nombre de choses au niveau de l'éducation nationale à Marseille et qui nous disait qu'il avait dû reculer dans certains cas à cause du fait qu'il n'y avait pas l'unité parmi les citoyens de la commune. Et là, c'est apparemment le cas, puisqu'on parle d'un village déchiré autour de l'école, voilà.
Oui, mais il est très très difficile quand même d'être à contre-courant de ce qui caractérise le martelage, la propagande journalière, tu vois. Et je pense que ça ne peut passer que par l'explication.
Alors on me donne pour le cas donc de cette copine qui passe donc jeudi On me donne un téléphone, alors c'est intéressant de le prendre. 05 61 88 91 18 05 61 88 91 18.
C'est noté.
D'accord.
Ben nous, enfin, on a été informés hein, au niveau national hein, de ce qui se passait pour Karine. Bon, voilà, on a su que très vite, il y a du monde, il y a un comité de soutien qui s'est organisé autour d'elle. Bon, par contre, effectivement, on ne savait pas que ça avait lieu. Donc, ça a lieu jeudi, son passage
en CAPD.
Ouais, d'accord. Mais bon, voilà, nous, après, au niveau du collectif, qu'est-ce qu'on fait quand on est informé sur des choses comme ça? Eh bien, on envoie des courriers aux inspections, on essaye de faire passer des articles dans la presse, voilà, on essaye de faire... On incite au conseil à ce qu'il y ait une mobilisation, qu'il y ait le plus de monde possible, etc. Et c'est vrai que, par exemple, quand on voit ce qui s'est passé à Mont-Laure, mais bon, pas qu'à Mont-Laure, il y a eu d'autres exemples, quand il y a une mobilisation entre les citoyens, l'école, les parents, les élus, ben, quand on va tous à l'inspection, ça a quand même de la gueule.
Faut dire que par rapport à l'exemple qu'il vient de citer, Mont-Laure était un contre-exemple parce que là, il y a carrément eu un soulèvement du village, tu vois. C'est-à-dire qu'on était, on était à la veille d'avoir des barricades. Il y avait déjà des banderoles partout.
J'avais même eu une photo, je crois, de cette manif. Alors bon, on va se quitter, on est obligé de se quitter dans quelques instants. Je crois qu'on doit, on doit dire aux auditeurs qui sont intéressés par rapport à Baselev qu'il y a un très bon site du collectif. C'est Retrait Baselev, tout attaché, sans accent, avec un S à élève. Et si vous avez un moteur de recherche n'importe lequel, il n'y a aucun problème. Je crois que derrière Retrait Baselev, il y a bien sûr @.
C'est WordPress, je crois, non ? Je
sais plus.
Ce qui est sûr, c'est qu'en tapant Collectif National de Résistance à Baselev, on tombe en général obligatoirement dessus. Ouais.
Oui, moi je voulais faire une annonce très prochainement, probablement la semaine prochaine, nous ferons une émission avec un copain qui travaille beaucoup sur les fichiers, qui a publié un gros dossier dans la revue Z, si je ne fais pas d'erreur. Ça s'appellera La République des fiches, et La République des fiches et la mécanisation des rapports sociaux.
Complètement.
Voilà, ça va être un débat en cours. On vous remercie bien, hein, et puis à bientôt.
Salut. Les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les...